Bonjour, frères et sœurs en Christ. Je m'appelle Françoise. Pour commencer mon témoignage, il y a 12 ans de cela, j'ai eu une maladie très forte, une douleur chronique que le médecin avait découvert, une forte inflammation dans mon sang. Et tous les soirs, je ressentais comme une forte fièvre et des douleurs qui me faisaient me réveiller dans la nuit 7 à 8 fois. Je ne savais plus quelle position adopter dans mon lit. Le matin, j'étais si fatiguée, mais malgré cela, je m'élevais pour participer à la Sainte Messe tous les jours. Au mois de février, samedi, du 21 au 22 février 2026, je suis partie à la retraite de Pensier, organisée par l'équipe de communion romande pour participer à cette session. Les pères Maurice Sessou ont aidé les prédicateurs. Pendant la messe du dimanche matin, le père Sessou nous a dit de réciter le « Je crois en Dieu » avec la foi ancrée en notre cœur. Et là, j'ai commencé à réciter dans une confiance totale et j'ai eu une image de là, dans l'une il y avait une source d'eau et dans l'autre une sirène pour une insertion de l'hôpital. J'ai entendu une voix qui me disait « Ma fille, approche-toi. » Je ne sais pas, mais ma bouche est partie vers la source. J'ai bu l'eau. En même temps, j'ai senti l'eau passer dans ma tête qui descendait dans mes deux épaules, dans mon cœur et dans tous mes membres, jusqu'aux pieds. J'ai dit dans mon esprit, Jésus, je crois en toi. Et depuis ce moment, j'ai eu la guérison. Je ne me lève plus 7 à 8 fois par nuit. Je dors là, dernièrement. J'ai fait une prise de sang à montrer que l'inflammation est partie. Je suis guérie. Jésus m'a guérie. Pour terminer, frères et sœurs, je vous dis, Jésus est là. Si vous tenez la main de Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible. Frères et sœurs en Christ, même il faut toujours rester dans le chemin de Dieu. Amen.
Thank you. le refrain, et puis ensuite que chacun de nous dise avec ses mots au Seigneur ce qu'il a fait pour nous, qu'on lui dise merci, qu'on lui dise qu'on l'aime, qu'on fasse vraiment monter comme une clameur de louange, d'acclamation, de reconnaissance de notre Dieu.
À travers elle, de pouvoir dire au Seigneur
si tu veux que je sois dans une chaise roulante, eh bien, je le veux aussi. Parce que je sais que sa volonté, c'est pas que nous soyons malheureux, mais c'est que nous soyons heureux. Et qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre cet état de... que nous avons à vivre. Alors, le 24, bon, par rapport à... quelques jours après, je fais un songe et je me vois arriver au ciel en chaise roulante. Et là, la porte était grande ouverte. Mais j'ai vu aussi que j'avais mon âme toute noire. Et là, la porte était fermée. J'ai eu la grâce de voir qu'est-ce qui noircissait mon âme. Malgré que je me confesse assez régulièrement, j'ai pu voir que j'avais des blessures par rapport à certaines personnes qui ne sont peut-être même pas conscientes qu'elles m'ont blessée, mais je voyais cette... quand j'entendais ou que je rencontrais ces personnes, j'avais de la rancœur, j'avais de la médisance, j'avais de la colère, j'avais de la jalousie, enfin tout ce qui pouvait noircir mon cœur. Et là, encore une grâce particulière, j'ai pu me confesser. Ça a d'abord été un combat, parce que à Saint-Maurice, on est gâté, on a beaucoup de prêtres, mais j'avais besoin de voir quelqu'un qui était complètement en dehors de Saint-Maurice. Donc, le prêtre qui me connaît me dit, ben, puisque tu ne peux pas marcher, je viendrai chez toi. Alors là, pour moi, ça a été une honte, mais prendre du temps à un prêtre pour venir chez moi, c'est pas possible. Mais enfin, bref, j'ai pu recevoir le sacrement du pardon. C'était le 24 mars. Le 25 mars, c'était notre soirée de prière, et il y avait exactement 20 ans qu'une personne était décédée. C'était un peu un fondateur de ce groupe de prière. Donc, ce soir-là, je me rappelle que j'ai dit en arrivant, ce soir, il va se passer quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il va se passer quelque chose. À notre grande surprise, il y a un prêtre qui vient à lui régulièrement et un autre prêtre qui vient nous rejoindre. C'était la première fois que je le voyais, en tout cas dans le groupe de prière. Je dis à la personne, c'était ça la surprise? Je dis non, pas du tout. Et on s'est arrêté après la prière, et ensuite je rentre chez moi, j'ai dû passer une partie de la nuit en prière. Et le matin, je me lève, à ma grande surprise, j'avais une chaleur qui montait de mes pieds et qui montait juste en-dessus de mes genoux. C'était vraiment comme quand vous avez de grandes brûlures et que vous passez un baume. Et je me tenais debout alors que avant il fallait presque 2 à 3 heures de temps pour pouvoir m'habiller et être prête, par exemple, pour aller à la messe. Et là, je me disais, c'est pas possible, mais j'ai l'impression que j'ai plus mal à nulle part, je peux sauter, je courais autour de ma table, et je suis même descendue les escaliers alors que je ne pouvais plus faire les escaliers depuis un moment. Et j'étais vraiment bien. Je sens vraiment cette force qui est venue dans mes jambes, et c'est à chaque fois que je sens cette force, c'est cet amour de Dieu qui m'a rejoint dans mon cœur. D'abord à travers sa miséricorde, mais aussi à travers ses sacrements. J'ai reçu 3 fois le sacrement des malades. C'est pas que j'ai voulu les 3 fois, mais la première fois, j'étais tellement mal que j'ai demandé à un prêtre de venir me donner le sacrement. Et puis, quelques temps après, il y avait une personne qui était venue nous nous joindre pour la prière. Et elle devait rester chez moi ce soir-là. Et là, le prêtre lui a aussi proposé de recevoir les sacrements. Et voilà, comme je me trouvais là, il avait pensé que j'avais déjà reçu. Donc, en donnant à mon ami, il m'a redonné le sacrement des malades. Et la troisième fois, c'était le dimanche des malades, je crois au mois de mars, là. Et là, il n'y avait pas, c'était une petite église, et le prêtre a proposé que tout le monde reçoive le sacrement des malades. Donc, je l'ai reçu trois fois. Voilà. Mais par rapport à cette guérison que j'ai reçue, il y a eu en moi aussi cette parole qui nous a été adressée à la prière. Je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse et d'unité. Et cela m'a vraiment touché le cœur et il y avait comme un feu qui s'est allumé au fond de mon cœur. Et je me suis rendu compte que ce feu, c'est l'amour de Dieu qui nous est donné pour qu'on le partage autour de nous. Alors voilà, cette guérison, il y a eu quelque chose de magnifique. Des sept semaines qui se sont mis en place en quelques jours. Et c'est quelque chose qui nous dépasse. Toutes les personnes qui pouvaient venir se sont même présentées pour venir donner un enseignement. Il y a même ici beaucoup de personnes qui le savent. On se disait, s'il n'y a personne pour l'enseignement, on va passer une vidéo. Mais on a même pu refuser du monde. Notre chère Emmanuel, on pensait à elle pour qu'elle nous donne un témoignage. Eh bien non, il y a eu d'autres personnes qui sont venues. Et on a vraiment des prêtres qui sont venus de... Enfin, il y a tout le secteur qui est présenté, il y a toutes les communautés qui sont représentées, et il y a une grande unité. Et je me dis que plus il y a d'unité, plus le Seigneur peut nous bénir. Et quand le Seigneur nous visite, il le fait vraiment à merveille. Et pendant ces sept semaines, à un moment donné, dans une démarche, j'ai reçu d'être un prophète du pardon. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, parce que c'est pas toujours facile d'aller vers quelqu'un pour lui demander pardon. Des fois, il y a des incompréhensions, et on n'est même pas conscient de la blessure qu'on a pu faire à telle et telle personne. Mais là, vraiment, il faut se laisser conduire par l'Esprit Saint et l'écouter. Il a un chemin magnifique à nous donner. Et aujourd'hui, c'est vraiment dans la joie que je vous partage les merveilles que le Seigneur a fait. Et il faut, on voit bien sûr quelque chose de physique pour ceux qui m'ont vu. La peine que j'avais à marcher, c'est quelque chose de grand. Mais ce qui ne se voit pas est encore plus grand. C'est ce que le Seigneur a fait dans notre cœur. Et aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir beaucoup de prêtres pour recevoir le pardon. Et je vous encourage, je nous encourage à recevoir ce pardon aussi souvent qu'il est nécessaire. Et même d'avoir la grâce de pouvoir réparer. Dieu nous pardonne. Mais nous, est-ce qu'on a le courage d'aller aussi vers vos frères et sœurs pour leur demander pardon, pour reconstruire quelque chose de beau, de nouveau? Et aujourd'hui, à cette fête de la Grande Côte, bien nous sommes envoyés pour être des messagers, pour être des témoins de notre baptême. Comme le Père nous le disait, nous avons tout reçu à notre baptême. Alors, laissons-nous faire, laissons-nous guider. Et je voudrais aussi terminer par rapport aux blessures. Quand nous regardons notre propre blessure, elle nous empoisonne. Mais quand on donne nos blessures au Seigneur, elle devient glorieuse et source de vie jaillissante en nous. et c'est ce que je vous souhaite pour cette fête de Pentecôte.
Forme d'une punition possible, cette frustration, je peux la présenter au Seigneur, dire voilà, Seigneur, cette petite souffrance, au lieu de m'accabler sur cette souffrance et de puiser mon identité dans cette souffrance, je t'en fais le cadeau. De même que le Christ sur la croix a offert sa vie, et ce qui fait que chacun et chacune parmi nous, on peut offrir au Seigneur les souffrances que nous avons, et elles ont un grand prix. Vous voyez, le jeûne, le partage, tout ce qu'il y a dans la vie de chacun d'entre nous, ça c'est la dimension sacerdotale de tous les baptisés. La dimension royale, c'est la dimension d'autorité. C'est-à-dire que vous et moi, nous sommes co-héritiers du royaume, c'est-à-dire que nous avons, vous voyez, Jésus a été nommé, a été fait Seigneur, roi de l'univers. Mais il partage sa royauté avec nous, c'est-à-dire que nous avons une vraie autorité sur le bien, sur le mal, sur nos vies. C'est une vraie capacité d'exercer notre liberté. Et si nous exerçons notre liberté, c'est-à-dire si nous posons des vrais choix, si nous choisissons le bien, bien nous avons une autorité sur ça. C'est pourquoi, vous savez, quand on rejette le mal, quand on choisit le bien, et bien la plupart du temps, nous avons les délivrances que nous devons avoir. Mais il nous faut rejeter le mal, il nous faut le choisir vraiment. Vous avez une vraie autorité comme baptisé. Et de temps en temps, on nous a pas assez appris, je trouve, à utiliser notre autorité spirituelle. Être capable de dire au démon, mais va-t'en, fous-moi la paix, pourquoi je t'ai pas vu. Et il faut savoir prendre cette autorité-là. Après, attention, hein, à chaque dimension du baptême, les péchés qui vont avec. Vous voyez, il y en a qui confondent le fait d'être prêtre avec le fait d'avoir un ministère d'accompagnement spirituel, par exemple. C'est un ministère particulier dans l'Église. C'est pas parce qu'on peut offrir qu'on porte le nom de prêtre qu'on est prêtre comme un. Pas parce qu'on est roi qu'on a une autorité sur le démon et qu'on décrète un ministère de délivrance. C'est les petites paroles que je veux dire pour les groupes de prière, je dis ça, je dis rien. C'est juste pour dire aux bergers et bergères des groupes de prière, aux uns aux autres, ne nous donnons pas plus d'importance qu'on en a. Laissons bien le démon à sa place, et puis quand il va y avoir des prières de délivrance, etc., passons par la voie hiérarchique et par l'obéissance. N'oubliez jamais que quand dans un groupe de prière, vous avez quelqu'un qui se met à hurler parce qu'il est possédé ou qu'elle est abîmée psychiquement et embêtée par le démon, le but de la manie du démon, c'est d'abord d'empêcher le groupe de faire ce qu'il doit faire. Je vais vous raconter cette histoire qui a eu lieu il y a une dizaine d'années. J'habitais à Avignon à l'époque et on avait un réveillon, il y avait des prêtres partout qui confessaient, c'était trop bien. Et à un moment donné, on vient me chercher, on me dit « Baudouin, Baudouin, viens vite, il y a un problème à la sacristie. » Et à la sacristie, je trouve tous les prêtres autour d'une jeune fille qui était pliée en deux, enfin, qui voyait à 45, 80, 90 degrés, mais à l'envers. Et donc, visiblement, une vraie visibilité de l'action du démon. Et normalement, quand on fait l'éclair à l'envers, on se passe la figure. Et tous les prêtres étaient là en disant « Faut qu'on fasse un truc, on va faire un... » quelque chose, ils ne savaient pas quoi, ils disent, bon, mais comme on ne sait pas, on va demander à Baudouin, lui, il prie bien, hein. Il prie bien, lui, hein. Il y en a, ils comprennent. Lui, c'est un bon. Et donc, ils viennent me chercher, je n'étais pas prêtre, et là, je vois à ce moment-là, dans la sacristie, tous les prêtres autour de cette personne, et j'avais appris à un ancien à observer. Et au bout d'un moment, je leur fais avec énormément de prétention, et un peu d'humour, je fais, laissez-moi seul avec elle. Je restais avec quelqu'un, je dis, allez-y, repartez. Et avec devant témoins, comme ça, je peux le raconter, je fais, bon, t'as vu, ils sont repartis confessés, t'as raté ton cirque, allez, dégage. Et là, la fille se lève et s'en va. En fait, le démon avait fait un sketch pour que tous les prêtres quittent les confessions. À qui profite le crime? Et oui. Et donc il faut toujours laisser le démon bien à sa place. Et on ne combat pas le démon. On ne se met pas en avant dans le démon du roi. Non, non. L'autorité qu'on a comme chrétien, c'est une autorité pour la bénédiction. C'est une autorité qui nous est donnée pour, dans ce monde, proclamer la bénédiction. Par exemple, Vous n'imaginez pas à quel point, par votre baptême, vous avez un pouvoir de bénédiction. Ça ne veut pas dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est bénédiction, ça, c'est un baptême. Mais la bénédiction, c'est de dire du bien. Or, la parole est créatrice. Dieu nous a créés à son image. Donc, quand vous bénissez quelqu'un en disant « Seigneur, je te bénis pour Micheline », est-ce qu'il y a une Micheline parmi nous? Bon, c'est pas vous, Micheline. Allez, si, c'est vous. Seigneur, viens, viens. Micheline, je vous bénis vraiment dans le nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Bénédiction pour Micheline. Et elle peut se faire un shampoing avec. C'est... La bénédiction, ça fait du bien. La malédiction, c'est pareil, mais inversement. C'est très puissant et ça a pourri la vie de quelqu'un. Quand tu fais une malédiction, quand tu maudis quelqu'un, ce que Jésus fait avec le figuier, il perd ses fruits, il meurt. Mais si nous, on maudit quelqu'un, il y aura entre notre âme et son âme un lien de malédiction, vous voyez. Et on a oublié souvent qu'on veut souvent lutter contre les malédictions. Mais n'oubliez pas, frères et sœurs, on lutte contre les ténèbres en allumant la lumière. C'est-à-dire, on ne va pas d'abord lutter contre la malédiction, on va d'abord faire grandir la bénédiction. Et donc, quand vous avez des problèmes avec quelqu'un, bénissez, bénissez la personne, priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez-les. À un moment donné, c'est tellement puissant la bénédiction, Seigneur, bénis-le, montre-lui que tu l'aimes. Que vous avez une sorte de faisceau de bénédiction qui va sur la personne, et il y a tellement de choses qui vont être vaincues par ça. Vous voyez, ne menons pas les mauvais combats, ne menons que les bons combats. Enfin, menez le combat en vue d'apprendre à bénir les gens. Pas en vue de chasser la malédiction, vous allez perdre votre temps. Faites grandir de la lumière et les ténèbres vont disparaître. Mais ça, c'est tellement important. Dans les groupes de prière charismatiques, parfois, on aime avoir de temps en temps une petite délivrance publique pour montrer que... Et en fait, on montre surtout qu'on a un gros melon sur la tête et que oui, moi je vais faire, j'ai un charisme de délivrance. Laisse tomber ta délivrance, la personne a fait du bruit, vous la sortez pendant ce temps, nous, on adore et on s'en fait. Et on met les choses en place. Et une fois que vous avez un peu vexé le démon, souvent en plus, si vous vous la plaît. Il est comme un adolescent, je m'en vais. Mais c'est vraiment important de faire ça. Vous voyez, le baptême nous donne une capacité d'action que nous n'imaginons pas. Par ce sacerdoce, nous pouvons bénir. Seigneur, viens bénir cette personne, viens la rencontrer. Mais l'action céleste qui suit nos actes humains est très importante. Quand vous dites, Seigneur, je vais rencontrer quelqu'un, je voudrais que son ange gardien et le mien discutent pour que la personne soit en bonne condition pour qu'on puisse discuter. Eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça se fait. Ça agit, ça joue, comme on dit ici. Notre ange, il va aller parler à son ange. Et ça change tout. Nous oublions que la vie surnaturelle n'a rien à voir, enfin, est bien plus grande que la manifestation qu'on peut en avoir ici. Vous voyez, quand vous demandez, Seigneur, Seigneur, montre-moi comment fonctionne cette personne. Pour ceux qui ne savent pas, moi je suis à 2 cm de l'autisme. Ça ne se sait pas, ça ne se voit pas, parce que je travaille beaucoup sur moi. Les gens qui sentent sont ceux qui viennent me toucher parce que c'est comme une agression. Mais je dois lutter contre ça tout le temps. Et jusqu'à ma mort, je lutterai contre ça. Je m'en sors plutôt pas trop mal. Et je sais qu'au niveau relation humaine, c'est compliqué avec moi. Parce qu'il y a des cases que j'ai pas. Et j'ai des trucs... par exemple, mesdames, quand vous discutez, vous êtes capables de vous dire des trucs sans vous les dire. Le passe-moi de l'eau peut se transformer en « tu crois que je t'ai pas vu tout à l'heure ?» Mais vous, vous ne l'avez pas dit. Et nous, les mecs, on n'a aucune idée de ce que vous vous êtes dit, mais vous savez exactement ce que vous avez dit. Oui, vous êtes complexe, etc. Et nous, on est simple. C'est possible. Nous, quand on dit « passe-moi l'eau », ça veut dire « passe-moi l'eau ». Vous voyez? Et ça simplifie beaucoup la vie. Donc, sachez que nous sommes parfois des gens un peu simples. Donc, quand il faut qu'on aille discuter avec des dames, d'abord on a peur, et on se dit, elle va dire quelque chose, il faut que je comprenne ce qu'elle peut vouloir me dire. Les messieurs, ils ont tous vécu ça à la maison. Un jour, ils ont entendu une porte qui Tu avais des signaux faibles, on appelle des red flags. Tu as des signaux faibles. Tu en as deux, trois dans la soirée qui fait. Il y a un problème. Je ne sais pas lequel c'est. Elle ne va pas vouloir me le dire parce qu'elle va vouloir que je comprenne tout seul sans qu'elle m'écoute. Parce que ce serait signe que je la comprends. Or, je ne la comprends pas. Parce que je ne peux pas. Donc, on est dans une mélasse froide. Et les hommes. Donc, enfin, je dis ça uniquement en France, pas à Vevey. C'est important. Donc, nous, on a une solution. C'est de dire, Seigneur, Esprit Saint, je ne peux pas comprendre. Moi, j'ai qu'un cerveau, je suis un mec. Et en plus, mesdames, nous avons dans notre cerveau une case unique. Vous savez, on a des cases. Comment ça fonctionne le cerveau d'un homme? Vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. C'est plein de petits tiroirs par des activités connexes. Le travail, la voiture, l'épouse, l'argent, la pêche. Et on se débrouille pour qu'aucune de ces cases ne croise l'autre. Quand je vais à la pêche, je ne pense pas à vous, vous avez un ensemble, mais c'est la nature qui nous a fait comme ça, de cases qui se touchent parfaitement, totalement imbriquées, et vous pouvez penser à tout en même temps que ça. Et nous, on a même une case dans laquelle il y a marqué « Je pense à rien ». À quoi tu penses, chérie? À rien. Nous ne mentons pas. On ne pense à rien. Si vous voulez qu'un jour, si messieurs, nous devons comprendre les gens qui sont différents, on a, mais là, pardon, monsieur, la plaisanterie, c'est pour vous maintenir éveillé. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, et là, on est faible. On a besoin qu'il vienne nous expliquer comment ça fonctionne. Au lieu de dire ça me fatigue, ça me saoule, ça, tout ça, Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre? Quelle est l'information que j'ai pas? Qu'est-ce qui se passe dans le fonctionnement de cette personne? Comment je vais m'adapter à l'autre? Et mesdames, ça marche aussi dans l'autre sens. Comment on va tous faire ça? Notre vie surnaturelle, la vie surnaturelle, elle est naturelle, elle est normale. Donc intégrer le Seigneur dans nos discernements quotidiens, c'est normal. Vous pouvez vous rentrer dans votre bagnole, vous mettez votre GPS. On ne sait même plus quelle carte aujourd'hui. On aurait le quart du dixième de la moitié du cinquième. De cette habitude-là vis-à-vis du Seigneur, on ferait 50 choses que c'est un mouvement. Sauf qu'on ne lui demande pas son avis dans notre vie. Et donc là encore, l'Esprit Saint devrait se manifester dans notre vie, mais il ne peut pas, parce qu'on ne lui demande pas. Moi, je demande régulièrement à l'Esprit Saint de trouver les gens dont j'ai besoin pour ma paroisse, de l'argent pour le financer, la capacité à faire le boulot, etc. Mais je lui demande rarement. Aide-moi à comprendre la situation, à mieux voir pour faire la bonne décision. Moi, en tant que petit impulsif extraverti, j'ai rapidement dans mon opinion, et si quelqu'un m'agace, je sors immédiatement la batte de baseball et je suis prêt à prendre sa tête comme une balle. Vous voyez, réaction primaire, primate. Il y a normalement le chrétien qui se convertit, fait « Seigneur, oui, j'ai envie de tuer, mais non, je ne le fais pas, parce que j'obéis à la loi naturelle et à l'évangile. » Et maintenant, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois comprendre cette situation? Et quand vous vous mettez à genoux pour demander à l'Esprit Saint comment vous devez comprendre les choses, comment vous devez voir les choses, ce que vous devez avoir comme compréhension, il va vous faire. Mais il faut lui poser la question. Et il faut ouvrir son intelligence et son cœur à la parole du Saint-Esprit. Et j'ouvre une parenthèse très importante chez les charismatiques. La grande maladie des groupes de prière charismatiques ces dernières années, c'est la présence parmi leurs rangs de gens qui ne sont pas charismatiques mais qui sont médiocres. Oui, c'est un petit dossier. Je vous donne juste le but. C'est que parfois avec les années, comme les charismes ont été moins présents, certaines ont hyper développé leur capacité sensible de ressentir. Bon, moi je suis un mec, si jamais je vous vois madame et que vous pleurez, je fais « Ah ah, vous êtes triste !» Et vous applaudirez en disant « Oh, t'es moins bête que ton adresse !» Quelqu'un qui hyper-développe sa capacité sensible de perception va s'approcher de vous et peut même avoir des flashs, comprendre plein de choses, ressentir dans son corps plein de trucs, plein d'informations. Ça va toucher des choses qui sont dans votre psyché, dans votre psychisme. Et ça peut nous arriver à tous, hein. On a tous cette sensibilité. Qu'on développe plus ou moins, certains vont fermer pour se protéger. Je sens que j'ai bien votre attention. Et attention, ça c'est pas du Seigneur, c'est pas de cet ordre-là. Que le Seigneur passe par notre ressenti pour nous parler, pourquoi pas. Mais attention à celles et ceux qui développent ou surdéveloppent leur ressenti comme moteur de vie, en pensant que c'est du Seigneur. Non. Mon chat, je ne vous ai pas encore parlé de mon chat. J'ai un chat qui s'appelle Capitaine, c'est une femelle. Et j'aime à parler de mon chat parce que ça agace des gens et moi je trouve ça très drôle. Mais surtout, c'est un magnifique exemple. Vous entendez? Ouais. Mon chat est un chat, c'est-à-dire que mon chat vit selon son affectivité. Quand je vais rentrer de 3 jours, 4 jours d'absence, elle va se mettre de dos, elle va retourner ses oreilles pour dire « j'en ai rien à faire ». S'il y a une dame qui vient dans mon bureau, elle est jalouse, elle va faire pareil pour montrer « je suis jalouse ». Ça veut dire qu'on a beaucoup de comportements chez nous qui sont animaux. Je discute avec une dame, il y a un autre monsieur qui vient, immédiatement nous on va rentrer en concours. C'est animal. Mais c'est inconscient. Il va falloir qu'on dise, non mais moi ma paroisse elle est mieux que la tienne, quand on n'est pas encore sanctifié, ce qui est mon cas. Eh bien si on vit selon notre sensibilité, on va percevoir plein de choses. On va être comme mon chat qui est capable de percevoir à 10 km ce que je ressens. Et on peut dire à quelqu'un, on peut ressentir des choses pour les gens. Mais attention, ça c'est pas mieux. Le ressenti va vous dire des choses qui sont autour du psychisme, du vécu affectif, de la blessure. Pourquoi les gens vont tous chez les voyants, chez les médiums? Parce que quand tu vas chez Madame Irma, elle te dit, oh, à l'âge de 4 ans, vous avez vécu telle blessure et il s'est passé telle chose, votre mari vous a quitté et vous, monsieur, vous avez eu tel truc, etc. Ça, c'est dans le corps, c'est marqué, c'est dans le psychisme. Et pour peu que la personne, en plus, fasse appel au démon sans se rendre compte ou volontairement, peut même apprendre des choses d'autres générations, en disant, mais je ne peux pas le savoir. Ah, vous prophétisez. Non, je ne prophétise pas, parce que la prophétie, et là c'est la troisième dimension du baptême, c'est quand Dieu parle à quelqu'un d'un autre ou d'une situation. C'est-à-dire c'est le regard de Dieu sur une réalité qui va passer par quelqu'un. Si je dis à quelqu'un, tu as vécu telle blessure, il y a telle chose qui s'est passée dans ta vie, etc. C'est pas de Dieu. C'est-à-dire que c'est pas Dieu peut le dire, mais c'est pas le propre de Dieu. Le propre de Dieu, c'est d'avoir un regard sur cette chose que tu as vécue. Et quand tu as surdéveloppé ta capacité sensible, eh bien, bon, d'abord, souvent, tu embêtes tout le monde, parce qu'il y a toujours une crise avec toi. Donc, dans les groupes de prière, les gens avec qui il y a toujours une crise, il y a un problème, un jour, vous leur dites de prendre leur retraite. Ça, c'est à savoir. Alors que quand on est dans la prophétie, c'est le regard de Dieu sur quelque chose de cette vie. Et la parole qu'on donne va être une parole d'espérance qui va tourner le regard vers Dieu, non pas vers le doigt, mais vers la source, vers la lumière. Et vous et moi, nous sommes faits pour être prophètes. Et un des grands combats que nous avons tous à mener, est-ce que nous allons nous laisser conduire par notre sensibilité qui va décider pour nous comme mon chat, ou bien nous allons choisir de décider avec notre intelligence, notre volonté et l'aide du Saint-Esprit qui va nous dire des choses que le Seigneur veut. Vous voyez, intuitivement, on dirait ce qui compte, c'est dans le ressenti de Dieu, dans l'écoute de ce que Dieu va dire, dans tout mon ressenti comme ça. Sauf que, théologiquement, c'est pas exactement ça. Ton ressenti peut te donner une information. Mais cette information, après, tu vas la mettre dans ta tête et tu vas réfléchir à elle. Je prends ou je ne prends pas? Est-ce que c'est parce que je le ressens qu'il faut que je le dise ou que je le fasse ou que je ne le fasse pas? Et puis je vais dire, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que c'est de toi? Vous voyez, on va se mettre en place avec toute notre intelligence et notre volonté. Le monde n'a pas besoin d'hypersensibles ressenti, il est autour de moi. Il parle de moi. Vous avez des gens, quand ils vous parlent de moi, de leur voix tout le temps. Le prophète, il parle de Dieu. Il peut parler de soi dans un témoignage, dans un truc, mais c'est d'abord de Dieu. Le combat d'aujourd'hui, un des combats, c'est est-ce que je suis dans mon ressenti et je choisis par mon ressenti, ou est-ce que je choisis par mon intelligence et ma volonté? Pourquoi l'esprit des prophètes est soumis au prophète qui dit la parole? Parce que la soumission de la prophétie se fait d'abord à l'intelligence et à la volonté. Un groupe de prêtres charismatiques n'est pas un rassemblement hypersensible qui s'éclate. Je vous laisse méditer. Il y a des moments dans notre vie où on est des hypersensibles. Moi, vous mettez. Qu'est-ce que j'écoutais à midi? Désolé pour ceux qui avaient des sandwichs. La crème double de Gruyère. Sur des fraises. C'est bon, sandwich? Ben, voyez, là, il y a zéro choix, volonté, intelligence. L'esprit de rien est soumis à rien. C'est QFD, hein, je vous montre par mon péché de. Donc là, c'était mesuré quand même. Eh bien, notre vie chrétienne n'est pas une vie de ressenti. Le ressenti nous informe et nous allons le gérer par notre intelligence et notre volonté. Tu as de la haine pour ton frère? Super. Ok, tu vois qu'on met du tapé dessus. La question c'est qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'en fais? Et là, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Montre-moi ce que je peux en faire. Vous avez de la haine pour quelqu'un, vous avez envie d'aimer, mais c'est tellement dur de vous approcher de cette personne. Ok, qu'est-ce que t'en fais? Ben moi, je choisis de ne pas obéir à cette haine, à mon ressenti. Mais je donne bien que j'ai vraiment du mal. Et Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Et sur ce fondement humain d'une vie qui devient de plus en plus droite parce qu'on fait ses bons choix de cette bonne manière, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se mettre vraiment à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? À qui? Qu'est-ce que je dois faire? À qui tu voudrais que je dise quoi? Plus vous mettez de l'ordre dans votre vie affective, dans votre vie sensible, plus vous pourrez faire grandir la dimension spirituelle et surnaturelle. J'ai vu trop de gens se perdre dans des histoires de mœurs. Pourquoi? Parce que... Dans des histoires de mœurs, pourquoi? Parce que comme le ressenti était premier, le jour où je suis tombé amoureux d'une fille, alors que j'étais prêtre, alors que j'étais marié, alors que... Oui, mais j'ai tellement ressenti au fond de moi que j'ai compris l'appel de Dieu à quitter ma femme. Mais des bêtises comme ça, j'en ai entendu, mais un nombre de fois. Chez les religieux, on appelle ça l'appel dans l'appel. Oui, je crois que vraiment, là, j'ai rencontré le Seigneur à travers cette dame, j'ai les prénoms maintenant. Hein. À travers cette dame, et j'ai fait ce choix-là dans ma vie. Ouais, c'est le nombre de gens, en fait, qui ont juste été infidèles et qui justifient ça par Jésus, c'est fou. Et chez les cathos, on fait ça hyper bien. Un mal est un mal, un péché est un péché. T'es infidèle, tu t'es barré alors que tu t'étais engagé. Et les gens qui se barrent en nous expliquant que oui, mais c'est normal parce que c'est mieux, le jour où vous leur demandez, tu sais que tu t'étais engagé, oui, mais mon engagement n'est pas très valide. Ok, l'Église seule peut en discerner, je pense, au mariage. Je parle aux religieux, je voudrais encourager les religieuses et religieux et les consacrer à des communautés qui ne traversent aucune tourmente. Je pense à personne. À tenir bon nos voeux. Parce qu'en fait, ils sont engagés vis-à-vis du Seigneur. Et puis il y en a qui sortent, puis il y en a qui restent pour réparer. Parce que souvent, ceux qui sont sortis, ils vont casser. Dans nos groupes de prière et dans nos vies, frères et sœurs, nous devons choisir de soumettre l'esprit des prophètes aux prophètes. À une vie d'intelligence, de volonté, de travail sur soi. Vous avez des faiblesses psychiques, faites-vous suivre, faites-vous accompagner. Il n'y a pas de honte à ça. Moi, j'ai fait plusieurs années de docteur Baboul. Et bien, ça fait du bien. Et quand il faut prendre son traitement, il faut le prendre. Parce que quand en plus vous avez une faille psychique, cette faille psychique, le démon l'utilise pour venir vous embêter. de le faire. Je vous rappelle qu'on ne vise pas la guérison, on vise le ciel. Nous, on vise le salut. Tant mieux si on est guéri. Oui. Mais stratégiquement, on vise qu'il va durer plus longtemps. Globalement, ça reste l'éternité. Eh bien, voyez, quand on fait ce boulot sur soi, d'agir en fonction de ce qui nous semble juste et bon, qu'on a mesuré, réfléchi, quand on a bien fait la part des choses entre le ressenti, on nous a parlé comme ça, nos passions, ces choses si fortes, on dit ok, je vous ai vu là, je vais voir ce que j'en fais, puis qu'on choisit son intelligence de dire je crois qu'il faut que je fasse ça, et qu'en plus on le fait, quand ce chemin-là devient la norme, eh bien nous devenons des personnes capables d'exercer les dimensions prophétiques de notre vie parce que le Seigneur va pouvoir nous parler parce qu'on va faire un vrai discernement. Le Seigneur parle à ceux qui sont capables de faire un vrai discernement très souvent. Et parfois on entend des paroles, etc., qui ne sont pas encore discernées, c'est que ça chemine, ça vient avec le temps. Mais notre travail à nous, si nous voulons être celles et ceux qui obéissons au Saint-Esprit tous les jours, c'est d'apprendre à gérer notre vie pour devenir la bonne terre dans laquelle le grain qui a été semé va porter des fruits. Pour ne pas être des cailloux ou tout ça, oui, la parabole. Et bien, parce qu'on aura travaillé cette bonne terre, le grain va porter du fruit, un pour mille, etc., 100 pour mille. Mais surtout, quand on va demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu dois faire, où est-ce que je dois aller, et bien, qu'est-ce qui va se passer, il va nous montrer. Et parfois, nous sommes dans l'illusion que Dieu va régler les problèmes que nous devons régler par nous-mêmes. Et parfois, les problèmes que nous devons régler avec notre sœur ou notre frère avec qui on s'engueule depuis 20 ans, alors qu'on va à la messe tous les dimanches et qu'on dit Amen, Alléluia, c'est juste que, ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est nous qui n'avons pas fait le chemin qu'il fallait faire. D'être capable de dire à l'autre, bien écoute, je regrette que pour l'instant je ne sois pas encore capable. Peut-être des gens vous ont fait du mal dans votre vie et vous savez que vous devez vous réconcilier. Mais la première chose, c'est de dire, un, j'aimerais me réconcilier. Deux, j'y arrive peut-être pas encore. Mais trois, ça va venir avec le temps, si tu veux bien. Peux-tu me donner du temps? La réconciliation, le pardon, c'est une démarche, hein, c'est pas juste arriver. L'arrivée, c'est Dieu qui donnera le prix. Et c'est au ciel la réconciliation. Mais en revanche, le fait de dire, moi, je vais choisir dès maintenant de me réconcilier, ça fait déjà la réconciliation. Vous voyez, quand on prie l'Esprit Saint, souvent, on oublie que la grâce se déploie dans une nature. Et le charismatique est pécheur quand il n'utilise pas assez sa nature, il ne la travaille pas assez pour que sa nature soit transformée par son travail et aussi par la grâce pour pouvoir être utilisée dans la mission à l'extérieur. N'ayez pas peur d'avoir votre nature anxieuse, blessée, je ne sais pas quoi, ce qui fait de vos peines. Mais vous avez aussi dans cette même nature des talents incroyables que Dieu a mis, des capacités que vous pouvez mettre au service et qu'il vous faut grandir. La parabole des talents. Dieu ne va pas d'abord nous demander si on a fait grandir les charismes qu'il nous a donnés, les charismes surnaturels extraordinaires. Il va nous demander des talents, des capacités. Dans votre nature, je suis sûr que vous avez des talents. Il y en a, ils ont un talent pour l'accueil incroyable. Pour la cuisine. Comment tu as fait de ce talent un truc que tu as mis au service de Jésus? Il n'y a pas longtemps, j'avais mes paroissiens qui disaient à la comptable de la paroisse. Oh ben, ça peut être l'horreur. Et elle devait lui répondre, ben non, c'est le talent que Dieu m'a donné. Je m'éclate en faisant la comptable de la paroisse. Je sais le royaume des cieux. Et l'autre, il avait juste pas compris que c'était son talent.
Et qu'en fait,
son talent, il fallait l'entendre, le respecter, l'accueillir et le faire grandir tel le faisait grandir au service du royaume des cieux. Vous voulez être des gens très charismatiques? Eh bien, commencez par regarder quel est mon talent. Et comment je le fais grandir? Tu sais accueillir? Accueille. Il y a des gens, leur place, c'est au fond de l'église, pas parce qu'on est dehors, parce qu'ils ont une telle capacité d'accueil, c'est génial. J'ai des très bons amis. Elle est à la messe tous les jours. Lui, moins. En revanche, il savait utiliser sa berceuse pour la paroisse. Et il a mis au Seigneur, au talent, au service du Seigneur, ce talent-là. Et les talents que vous avez sont des choses que Dieu vous a données. Si vous cherchez à travailler ce que dans votre nature Dieu a mis pour faire grandir le royaume là où vous êtes, eh bien la grâce surnaturelle va pouvoir s'ancrer dans une nature beaucoup plus travaillée, tournée vers le Seigneur. Je travaille la terre naturelle de mon âme, dans ma psyché, je me fais soigner s'il le faut, je travaille sur moi, je bosse sur ma colère, sur ma jalousie, sur la gourmandise, je me fais aider, enfin, je bosse quoi. Hein. Et ça demande de l'énergie et des sous, hein, mais faites-le. Et sur ça, je vais faire grandir aussi mes talents en même temps, en les mettant au service de mes frères et sœurs, ça s'appelle la charité. Et puisque je mets ça au service de l'annonce de l'Évangile, je vais travailler sur moi, je vais apprendre à écouter beaucoup mieux le Seigneur. Donc je vais apprendre à écouter beaucoup plus le Seigneur, et je vais pouvoir lui obéir. Et comme j'aurai travaillé sur moi, et bien cette obéissance, elle va apporter beaucoup plus de fruits. Parce que je serai capable d'entendre ce que l'Esprit Saint veut dire, de le discerner, d'avancer. Vous voyez, j'aurai fait ce chemin-là dans ma vie, et je serai vraiment missionnaire. Vous voyez, frères et sœurs, votre vie, votre mission, c'est d'être baptisé. Mais pas juste de dire, je suis baptisé. Regardez comment je suis. Non, ça ne sert à rien de dire, c'est bon, je suis baptisé. Donc, quand on a des gens qui viennent pour les obsèques, ils ont peur souvent qu'on dise non ou je ne sais pas quoi. Donc ils vous disent tous, non, ils arrivent, il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'obsèque d'un monsieur, il avait ses enfants, son épouse. Et il me rassure tous, non mais rassurez-vous, on est très chrétiens, ma tante faisait le catéchisme. Donc toi, tu es obligé de faire « Oh !» parce que tu ne veux pas les laisser, mais parce que sinon, ils oublient. Mais c'est important. Mais... On pense parfois qu'il s'agit uniquement pour nous d'être des bons chrétiens. Non, il s'agit pour nous d'être des missionnaires, d'avoir travaillé sur nous, d'avoir cheminé. Je pense que ceux qui, quand on arrivera au ciel, nous disaient ce matin, on sera épuisé. Ouais. Il y a des combats qu'on n'aura pas réussi, mais des combats qu'on aura menés. Il y a des choix stratégiques de prophétie dans notre vie qu'on aura fait, comme Seigneur, j'ai pas envie de faire ce que tu me dis, mais je l'aurais fait. Et en fait, on aura juste exercé notre baptême. On aura juste été débaptisés, mais pas juste je suis baptisé. Des baptisés qui ont fait grandir ce baptême. Frères et sœurs, il faut que vous et moi, nous fassions revivre notre baptême qui dort. Il faut que nous fassions gonfler cette dimension sacerdotale, prophétique et royale de notre baptême. Nous devons pouvoir sortir de cette église tout à l'heure en disant que l'on ouvre la porte de ce roi et reine du royaume de Jésus-Christ. Mais imaginez ce qu'on aurait vite quand on communique. Là, on pourrait faire une chorégraphie en descendant de la communion. Intérieure, évidemment. Cet après-midi, on va prier pour vous. On va demander au Seigneur de vous donner des grâces béni. Je ne voudrais pas demander la énième effusion du Saint-Esprit ou la même grâce que vous aviez reçue quand vous étiez jeune ou que vous avez déjà vu dans des trucs. Vous avez déjà reçu. Quelle est la grâce dont on a besoin quand vous voudrez demander pour vous aujourd'hui par l'effusion du Saint-Esprit? L'effusion du Saint-Esprit, c'est très large. La visitation du Saint-Esprit. Peut-être demander au Saint-Esprit de venir libérer à nouveau la grâce de votre baptême. Pour donner confiance en qui vous êtes, pour donner votre identité, vous reconnecter à l'identité que le Seigneur vous donne, de fils de Dieu. Ça, c'est votre identité. Lui demander de venir faire grandir en vous le courage et la force et la puissance de travailler sur vous. On entend rarement, je sais, des prêtres qui vont vous parler de coaching, de psychologue, etc. Mais posez sur vous, remettez-vous en cause. Travaillez sur votre relationnel, travaillez sur votre truc, travaillez sur ça. Essayez de changer, il y a des petites victoires, chaque jour, une de plus. Et puis apprenez à obéir au Saint-Esprit. Parce que chez les uns et les autres, ce n'est pas pareil. Donc moi, je voudrais